RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Nous recevons ce soir Yannick Jadot. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes le candidat à la présidentielle d'Europe Écologie Les Verts et député.
Des écologistes.
Oui, pardon. Faites bien.
C'est une primaire ouverte, donc je suis le candidat des écologistes.
D'accord. Vous avez gagné donc la primaire et envoyé Cécile Duflot dans le décor. Vous voulez incarner le renouveau des Verts, version adulte et non plus ado attardé. Avec vous, l'écologie va-t-elle quitter la politique? Longtemps, on a eu le sentiment qu'auparavant, la politique primait sur l'écologie. Est-ce que ça va changer avec vous? Quel est votre projet? Allez-vous sortir les Verts des 2% dont ils ont le secret? Et enfin, comme beaucoup, vous n'échappez pas parfois aux contradictions. Proche de Daniel Cohn-Bendit, vous plaidiez il y a un an pour une primaire de la gauche pour éviter la multiplication des candidatures et fragiliser donc la gauche. Résultat, vous avez fait votre primaire dans votre coin. Pardonnez-moi, avec une certaine indifférence générale, même si en ce moment, vous êtes en train de prendre la lumière, on vous découvre. Mais en attendant de parler de tout cela, on va parler bien sûr de l'année 2016 qui s'achève dans la tragédie en Syrie, à Berlin, en Turquie. Et hier en Allemagne, un camion fou a foncé sur la foule en plein marché de Noël, faisant 12 morts et 48 blessés. Ce matin, Angela Merkel a réagi publiquement, on l'écoute.
Je suis comme des millions de gens en Allemagne, blessés, choqués et extrêmement tristes de ce qui s'est passé hier sur ce marché de Noël à Berlin. Nous allons trouver la force de vivre comme nous le voulons, nous, ici en Allemagne, libres, ensemble et ouverts.
Peut-être un mot sur ce qui s'est passé, Yannick Jadot, mais peut-être, deuxième question, la politique migratoire était déjà critiquée par Angela Merkel. S'il s'avère que l'attentat a été perpétré par quelqu'un qui est rentré avec le flux de migrants, ça va donner de la voix à ses opposants. Comment vous analysez cette situation?
On ne sait pas qui est l'auteur.
Bien sûr. Mais le risque est fort.
Aujourd'hui, à l'heure où on parle, on ne connaît pas l'auteur de l'attentat. Deuxièmement, il y a eu plus d'attentats en France qu'en Allemagne. Et en France, ces attentats ont été perpétrés par des jeunes français. Donc, attaquer la politique d'accueil des réfugiés de Mme Merkel au regard d'un attentat terroriste n'est pas sain du point de vue du débat politique que nous devons avoir et du point de vue de la multiplication des attentats dans le monde perpétrés avec cette horreur, avec cette barbarie partout. Est-ce qu'on peut exclure qu'il y ait un terroriste qui se soit glissé dans le 1,5 million de réfugiés? Oui, évidemment pas. Évidemment pas. Mais le sujet doit être, c'est quoi la responsabilité de l'Europe par rapport au drame qu'il y a en Syrie et ailleurs? La responsabilité qu'a prise Mme Merkel sur la base de ce qu'elle considère être ses obligations dans le droit, sa foi chrétienne, son humanisme, a été de dire, ces personnes-là sont des survivants, ils fuient la guerre, il n'y a pas d'échappatoire à construire leur accueil et potentiellement leur intégration. Nous devons le faire à l'échelle européenne. La réalité, c'est qu'elle était la seule à se retrousser les manches et à faire le boulot et à mettre un toit et un lit pour près d'un million de réfugiés. Donc je crois que lier le terrorisme aujourd'hui à la question des réfugiés en Allemagne est une
négation. Non mais vous savez très bien que ces opposants politiques ont le même.
Tout le monde fait des liens tordus.
Pas nous.
Tout le monde fait des liens tordus. Ouais. Mais
vous savez qu'il y a des terroristes qui sont entrés en Europe par ce canal.
Mais il y a des terroristes qui sont entrés en Europe par ce canal. Il y a terroristes qui sont entrés en Europe de manière totalement clandestine, sans se faire passer par des réfugiés. Oui. Et il y a des terroristes qui sont issus de nos villes.
Bon, la question, au-delà de cet aspect des choses, Yannick Jadot, finalement, cette réponse d'Angela Merkel, cette réaction, c'est cet éternel discours des dirigeants européens après des attentats qui disent « Nous sommes forts, nous ne céderons pas, nous n'avons pas peur, nous vaincrons, nous allons continuer à vivre. » Est-ce que vous pensez vraiment que les peuples européens qui subissent des attentats en France, en Allemagne, ailleurs, vont éternellement se contenter de cette réponse-là?
Je l'espère d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui.
Vous espérez une forme de fatalisme, au fond?
Ah non, pas du tout. J'espère que ce qui est dit sur la construction de sociétés ouvertes, la construction de sociétés où chacune et chacun est reconnu dans ses droits et dans sa dignité, la construction d'une société où nous avons à la fois les éléments de police, de renseignement, de coopération européenne dans ces deux matières qui permettent d'identifier de possibles auteurs d'attentats. La réponse qui consiste à dire nous devons recréer à l'échelle internationale un modèle aussi plus de coopération, de justice internationale qui ne donne pas du grain à moudre à tous les faiseurs de haine et de mort qui recrutent des jeunes terroristes sur la base, y compris d'inégalités, sur la base de discours racistes, sur toutes ces bases-là. Si on n'a pas un discours dans le monde d'aujourd'hui qui soit un discours de société ouverte, de pluralité, mais de justice, d'arrêt de toutes les complaisances, quand on est dans la complaisance internationale, quand on est par rapport à des régimes qui exportent une vision fascisante de la religion, je parle de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, quand on ne résout pas sérieusement ce qui se passe en Syrie, quand on ne travaille pas sur l'accueil des réfugiés et qu'on laisse Erdogan instrumentaliser les réfugiés et Erdogan organiser un régime autocratique, sinon bientôt dictatorial, en Turquie. On va construire un monde d'injustice, à construire un monde de guerre civile et donc favoriser tous les recrutements terroristes.
Yannick Jadot, si l'Allemagne est comme économiquement forte, politiquement forte, elle est un nain politique militairement. Est-ce que, avec ce qui vient de se passer, elle va l'Allemagne, qui est de tradition, on va dire pacifique, va muscler ses opérations extérieures? Est-ce que ça peut devenir un allié?
C'est un débat en Allemagne. C'est un débat très intéressant en Allemagne parce qu'effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est rentrée dans une forme de neutralité du point de vue militaire. Voilà.
Ouais.
Ils ont compris que cette période était passée.
Et oui, et
deuxièmement, on sait aussi que...
C'est ça l'enjeu, peut-être.
Sait aussi qu'il y a un repli et on entre dans un monde du chacun pour soi. Poutine, Erdogan, Trump, ça laisse l'Union européenne à la fois un peu seule...
Mais obligée de se réveiller.
Mais obligée de se réveiller et donc d'avoir une politique de défense commune. Et donc d'avoir une politique extérieure commune, donc une politique de défense commune. Et l'Allemagne a compris, commence à comprendre cet enjeu. Et je crois que si on était capable, dans un deal avec l'Allemagne, de dire « nous avons un projet pour l'Europe », ce projet pour l'Europe doit être un projet d'investissement, pas d'austérité, j'ai bien dit d'investissement, un projet d'une politique commune de défense, d'une politique européenne de défense, d'une politique extérieure qui nous permette de peser sur les enjeux du monde. À ce moment-là, l'Allemagne pourrait, on pourrait avoir une discussion européenne autour de ça. Faut qu'il y ait un équilibre. Vous savez, ça peut pas être les Français qui envoient des soldats en Afrique et les Allemands qui envoient des infirmières. Ça peut pas être ça durablement.
Ou des avions.
Donc il faut trouver l'équilibre. Mais l'Europe est un point de basculement. Si l'Europe ne se donne pas la responsabilité de davantage gérer les affaires du monde sur plus de coopération et donc plus de potentiel de paix, d'intervention géopolitique, d'intervention diplomatique, franchement, on va avoir un monde entre Trump et Poutine qui se partagent, non pas dans la guerre froide où ils étaient ennemis, mais là où ils sont complices. Et en Europe, des Orban, des Kaczynski, qui est le vrai dirigeant du truc, là, ça va être le foutoir absolu.
Vous parlez de dirigeants qui sont élus, en l'occurrence.
Qui
Orban, Erdogan, ce sont des dirigeants qui ont été élus.
Oui, d'accord. Bon, non, enfin, Poutine aussi est élu. Bah, oui. Poutine aussi est élu, mais quand vous êtes opposant, vous avez une chance sur deux de prendre une balle dans la tête. Donc il faut quand même... ça s'appelle pas la démocratie.
C'est l'inconvénient de la démocratie. Qui permet
non, c'est pas la démocratie. J'appelle pas ça la démocratie.
Qui sont quand, pas forcément quand toujours démocrates eux-mêmes
d'arriver quand au les journalistes sont menacés, potentiellement tués, quand ils s'intéressent de près à l'oligarchie qui gouverne ce pays, quand les opposants n'osent pas se présenter aux élections, et que le seul élément d'opposition, c'est l'abstention, ça s'appelle pas une démocratie.
Alors, revenons à l'attentat à Berlin. François Hollande a réagi aujourd'hui, solidarité évidemment avec l'Allemagne, mais il évoque aussi la menace permanente sur la France et le dispositif de sécurité. On l'écoute.
Ici, en France, toutes les consignes avaient déjà été données pour que nous puissions sécuriser autant qu'il est possible tous les lieux et notamment les marchés de Noël ou autres rassemblements. Nous avons un haut niveau de menace et nous avons un niveau et un plan de mobilisation et de vigilance particulièrement élevé aussi.
Est-ce que vous pensez, Yannick Jadot, que la France est mieux protégée aujourd'hui que l'Allemagne grâce à l'état d'urgence ?
Non. Ça, tous les experts de l'état d'urgence disent qu'aujourd'hui, l'état d'urgence n'est plus un élément d'efficacité.
Il l'a été et il ne l'est plus.
Contre le terrorisme. Il l'a été probablement dans les premiers jours où il y a eu beaucoup de perquisitions. Ça a permis d'accélérer un certain nombre de procédures. Mais que ce soit à l'Assemblée nationale, personne ne dit qu'aujourd'hui, c'est un outil d'efficacité.
Neutraliser les filières, ça ne sert à rien. Assigner les personnes à résidence.
La plupart des personnes aujourd'hui qui sont repérés, potentiellement emprisonnés, mis en examen sur les questions de terrorisme, le sont à travers des procédures classiques. Ça, c'est la réalité. Simplement, on est dans une surenchère aujourd'hui politique autour de ces questions-là qui ne permettent pas d'avoir de la sérénité et d'avoir un discours de vérité vis-à-vis des Françaises et des Français, parce qu'on va dire, d'une certaine façon, s'il enlève l'état d'urgence, il nous enlève une protection. Moi, ce que j'avais voulu après les attentats de Nice, parce que jusqu'aux attentats de Nice, la classe politique française était quand même dans une sorte de respect, de sérieux par rapport à la lutte contre le terrorisme. Après les attentats de Nice, qu'aurait dû faire le président de la République, c'est de monter un Conseil national de lutte contre le terrorisme avec tous les chefs de parti, avec tous les chefs de groupe parlementaire, les experts et les services, et d'avoir des réunions hebdomadaires pour tenir au courant tout le monde des efforts et des meilleures mesures pour être efficace. Mon sujet, c'est pas la posture, c'est pas ce qu'on dit. Notre sujet, nous, c'est d'être efficace dans la lutte contre le terrorisme.
Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un manque d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme ?
Non, je pense qu'elle a été sérieusement renforcée. Ce que je veux dire, c'est que cette question, par exemple, du débat, cette question du débat sur l'état d'urgence, vous n'avez pas un expert du terrorisme qui vous dit c'est une mesure importante pour moi dans ma lutte contre le terrorisme.
Yannick Jadot,
ce qu'ils veulent, c'est des moyens.
Oui.
Ce qu'ils veulent, c'est plus de moyens. Ce qu'ils veulent, c'est une meilleure coopération entre les services français.
Donc une optimisation.
Une optimisation. Ce qu'ils veulent, c'est une bien meilleure coopération à l'échelle européenne. Bien meilleure coopération à l'échelle européenne. La coopération entre les polices, la coopération entre les justices, la coopération entre les services de renseignement reste trop faible. Elle commence
à
s'améliorer.
Mais ça, c'est pas du ressort de la France seule.
Non, attendez, excusez-moi. La France a été victime d'attentats terroristes. D'autres pays européens le sont. C'est aussi de la responsabilité de la France à l'échelle européenne une forte coopération, que ce soit des services de renseignement. Moi, je suis pour un FBI européen, je suis pour un parquet européen, qu'on donne des pouvoirs d'enquête à l'échelle européenne, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. C'est ça, les moyens.
Et pas pour un Patriot Act à la française.
Non, mais le Patriot Act, même Obama est obligé d'y revenir, parce que c'était cette forme de surveillance totale, massive, de l'ensemble des citoyens. Ça ne sert à rien, même lui est obligé de revenir. Écoutez les experts du terrorisme, ils vous disent... Ils disent pas « on manque de données sur tout le monde ». Ils disent « on manque de moyens sur ceux qui sont identifiés ». Donc la question, c'est pas de surveiller tout le monde. La question, c'est d'avoir les moyens de surveiller,
en fait,
d'arrêter et potentiellement de neutraliser des personnes qui sont déjà suspectées ou qui sont suspectées dans un autre pays et dont on ne sait pas quand ils viennent sur notre territoire. C'est ça le problème.
Alors Yannick Jadot, vous êtes le candidat de l'écologie. On parlera évidemment de cet aspect des choses un peu plus tard. Mais sur des questions comme celle-là, sur la sécurité, sur la montée de l'islamisme, qui explique sans doute la montée aussi des partis populistes en Europe, sur le repli communautaire, est-ce que vous avez, sur ces sujets-là, des propositions, des idées à avancer ?
Bien sûr, sur la sécurité, pour nous, très clairement, il faut remettre en place la police de proximité. Il faut être dans les quartiers, il faut être au plus proche des habitants pour pouvoir identifier, être à l'écoute, repérer quand il y a des comportements déviants.
Oui. Vous n'êtes pas un policier dans chaque cage d'escalier.
Il faut être, non, c'est pas dans chaque cage d'escalier. Il faut être que les services de renseignement, et c'est ce qui est en train de se faire, conduisent les enquêtes de police, le travail de la police au plus proche des territoires. Il faut aussi, évidemment, vous savez, la sécurité, c'est pas qu'une affaire de l'État. Quand vous organisez une démocratie locale, des conseils de quartier, des conseils d'école, vous mettez aussi les citoyens au cœur de la question de la sécurité, parce que là encore, non seulement vous créez du lien social et vous évitez que des jeunes se perdent totalement, mais vous êtes en capacité d'identifier des dérives. Et ça, c'est aussi notre responsabilité collective.
Alors j'ai une question très précise à propos du repli identitaire, du communautarisme et de l'islamisme. Il y a quelques jours, France 2 a diffusé un reportage que vous avez peut-être vu. Ça se passe en Seine-Saint-Denis, dans la ville de Sevran, et on voit des bars dans lesquels les femmes, sont littéralement interdites de séjour. Et on leur dit, ici, pas de femmes, pas de mixité. Ici, c'est le 93, leur dit-on. Ça n'est pas Paris. Qu'est-ce que vous faites dans des endroits
c'est
comme ça,
illégal.
Pour que les femmes ne soient plus exclues de l'espace
public.
C'est
tout simplement illégal.
Oui,
quand quelqu'un, vous parlez d'un restaurateur ?
D'un bar.
J'ai pas vu le reportage. J'ai entendu parler du sujet. Bon, c'est un bar. Un bar, il a une licence.
Benoît Hamon dit, c'est comme les ouvriers, au début du siècle, les femmes rentraient pas dans les bars.
Bon. Non. Il a une licence. Oui. S'il ne respecte pas la loi, il perd sa licence. C'est facile. Après, la question de la laïcité. Le problème, c'est qu'on est toujours en France. On en fait un débat totalement radicalisé, totalement hystérisé. Quand on est pour la laïcité apaisée, c'est qu'on est totalement laxiste. Quand on est pour une laïcité stricte, c'est qu'on est totalement contre les religions. La réalité, que pour reconstruire une laïcité concrète, c'est de prendre exemple largement sur ce que font les maires. De pas travailler le truc à l'échelle nationale, parce que ce sont les maires le plus souvent qui sont confrontés à des enjeux de laïcité. Il faut remettre de la laïcité concrète. Personne ne dit que c'est simple à résoudre.
Alors, si quelqu'un
regardez
vient
par exemple l'histoire du burkini.
Si je peux pas regardez aller dans un bar, vous êtes maire, je viens vous voir, vous faites quoi ?
Regardez le burkini.
Non mais
le burkini, ça a été le grand sujet.
J'entends bien, mais
le grand sujet, ça a été bien réglé. Vous avez 3 arrêtés qui ont été contestés par la justice. Qu'on dit vous pouvez pas le faire parce qu'il n'y a pas atteinte à l'ordre public. Et puis il y en a un où il y avait atteinte à l'ordre public et l'arrêté a été maintenu. Et ben ça c'est une façon intelligente de gérer ces problèmes-là. Là sur cette question-là, à partir du moment où c'est illégal, moi je suis pour que ce bar n'ait plus sa licence. C'est tout.
Mais là, on le sait parce qu'il y a l'équipe de télé qui y a été. Mais sinon, pour une femme qui est seule face à cette opposition, ça n'est pas forcément simple d'engager une procédure.
On peut pas régler les problèmes qui ne sont pas identifiés. Si le problème n'est pas identifié.
Mais le problème est aujourd'hui très important, vous le savez.
Il y a incontestablement dans la société aujourd'hui des groupes religieux qui veulent imposer le fait religieux dans la vie collective. Alors que nous sommes dans des sociétés qui sont censées être sécularisées. Il y a des groupes religieux, y compris de l'islam, qui jouent ce jeu-là. Donc là, c'est un combat politique qu'il faut mener. C'est un combat politique.
Et vous le menez comment ?
Ça dépend des cas. Là, vous me parlez du bar, je dis que c'est illégal, la personne ne doit plus avoir sa licence de sortir.
Mais attention, ce truc-là,
il est...
Ouais, juridique.
Mais parce que c'est illégal de recevoir un des clients dans un restaurant. Vous pouvez pas dire parce que c'est une femme, vous pouvez refuser.
Vous croyez que si la femme va porter plainte, le bar va fermer ?
Je vous dis, vous me demandez ce que je fais.
Oui. D'accord.
Je peux pas savoir ce qui va se passer à Sevran si le cas arrive.
Vous me demandez
ce que je fais. J'espère que la justice actera la perte de la licence pour discrimination.
Là, on est sur un cas d'espèce, mais vous savez qu'il y a pour les femmes aujourd'hui dans bon nombre de quartiers que la vie est extrêmement difficile parce que la pression est très forte.
Mais la pression est très forte, je le dis, c'est un combat politique à mener, c'est un combat pour les droits des femmes, mais ça ne doit pas se transformer en stigmatisation religieuse permanente. Parce que le problème de la dérive, quand on passe à la stigmatisation religieuse permanente, c'est qu'on crée aussi les replis identitaires. On rentre dans un cercle vicieux où plein de femmes et d'hommes se disaient jusque-là, moi je suis français, l'islam c'est ma culture, mais ça me concerne pas. Et d'un seul coup, à force d'être stigmatisé, ils commencent à se considérer comme des musulmans. Et plus vous les stigmatisez, et plus vous créez un repli identitaire, plus vous contestez leur légitimité à être des Françaises et des Français comme les autres. Oui, mais c'est ça qui est important.
On va s'arrêter.
C'est
là.
Ça qui est important. Parce que c'est un sujet extrêmement important.
On se retrouve tout de suite. On se retrouve. On fait un petit point sur l'actualité et on se retrouve dans 5 minutes.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour sur le plateau de Mardi Politique sur France 24 et RFI avec notre invité Yannick Jadot. Vous êtes donc candidat à la primaire, vous avez gagné la primaire et vous êtes décidément, j'ai du mal avec entre les Verts et Europe Écologie Les Verts. Bref, vous êtes le candidat des Verts à la présidentielle.
Candidat de l'écologie. C'est
l'écologie,
une primaire ouverte de l'écologie qui m'a désigné avec plus de votants en dehors du mouvement Europe Écologie Les Verts. Qu'au sein d'Europe Écologie Verte.
Oui.
C'est très simple, c'est une primaire ouverte de l'écologie. À partir du moment où tous ceux qui se reconnaissaient à un moment dans la nécessité de ce vote se sont exprimés, je suis le candidat de l'écologie.
Alors vous nous expliquerez pourquoi vous étiez pour une primaire de la gauche et finalement vous n'y êtes pas. Mais on va parler quand même un mot de la Syrie, puisque le 13 décembre vous avez écrit une tribune dans Le Monde, coécrite avec Raphaël Glucksmann, titrée « Alep crève, mobilisons-nous ». Entre-temps, la résolution proposée par la France a été votée hier à l'unanimité par le Conseil de sécurité pour envoyer des observateurs. Alors, un peu tard, mais vous dites c'est déjà ça?
C'est une résolution largement coécrite par les Russes. Tant mieux si la France en tire le bénéfice. Tant mieux s'il y a des observateurs qui vont aujourd'hui à Alep. Mais c'est la résolution qui prouve que nous avons perdu, nous. Si on défend les droits de l'homme, si on défend la démocratie, si on défend les libertés, c'est que nous avons perdu. Nous savons bien que Vladimir Poutine, aujourd'hui, il accepte des accords quand il a déjà gagné, quand il n'a plus rien à perdre. Et que nous ne sommes pas parvenus jusqu'à maintenant à créer vis-à-vis de Vladimir Poutine, qui a quand même, c'est lui qui écrit l'autorisation de chaque balle tirée à Alep, de chaque bombe envoyée sur les enfants, les femmes et les hommes à Alep. Donc nous n'avons pas créé le rapport de force vis-à-vis de Vladimir Poutine pour contraindre à un cessez-le-feu et éviter les massacres. Et moi, je vois bien les indignations, elles sont légitimes. L'horreur à laquelle on a assisté chaque matin, chaque midi, chaque soir, devant nos écrans ou derrière nos radios ou à lire les journaux, ce que je dis, c'est qu'il n'y a qu'une façon aujourd'hui de créer un rapport de force avec Poutine.
Mais vous écrivez, c'est un terroriste. Il faut lui faire la guerre alors ?
On ne fera pas la guerre à Vladimir Poutine. On n'enverra pas des soldats en Syrie. Ça, c'est notre réalité politique européenne. Et ce serait probablement une erreur dans le contexte aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'on laisse Poutine massacrait toutes les rébellions, y compris celles qui voulaient d'abord la démocratie. On sait que Poutine a d'abord massacré et bombardé les démocrates.
Est-ce qu'on en est
sûr
de ça
hein? Oui.
Vous êtes allé, les rebelles, est-ce que vous les connaissez?
Non, mais attendez, moi je lis j'écoute tous les experts, j'ai travaillé avec le maire d'Alep. J'ai travaillé.
Ah si, il y en a.
Non, à Alep Est, ils avaient viré Daesh en 2014. Daesh a été c'est aussi une coproduction du régime Assad. Il a libéré les islamistes qui ont créé Daesh pour aller cogner la rébellion démocratique. Le point de départ de la guerre en Syrie, ce sont des manifestations démocratiques. La seule façon aujourd'hui de contraindre Vladimir Poutine, qui tient les clés du bazar, c'est de le toucher là où il est sensible.
Les sanctions.
Où sont sensibles ? Pas les sanctions contre le peuple russe, qui est lui-même victime de Poutine. Ce sont les sanctions contre les oligarques russes.
Oui.
Il y a ce qu'on appelle la liste Magnitsky, qui est un avocat russe qui a été tué en 2009, et qui fait la liste des oligarques auteurs, complices de ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et qui les interdit au moins de territoires européens, gèle leurs avoirs, leurs biens mobiliers et immobiliers. Vous savez que, malgré tous leurs discours anti-occidentaux, ces oligarques, ils achètent à bras, à coups de milliards dans nos pays.
Oui, mais ça ne change rien, son objectif, à Poutine.
Non, si, si, parce que là, quand on touche à cette oligarchie dit « Ah, on a un problème ». Parce qu'on sait bien que sinon, les Européens, les Américains ne feront plus rien. La deuxième chose, c'est son orgueil. La Coupe du Monde. Vous imaginez aller commenter après les massacres de femmes, d'enfants et d'hommes en Syrie, de dire « Ah ben la France a fait match nul contre le Danemark à Moscou ». On ne peut pas faire ça. On ne peut pas aller jouer au football dans un pays qui organise délibérément des massacres. Donc moi, ce que j'appelle à organiser le boycott de cette Coupe du Monde, de la déplacer. On peut faire ça dans l'Union européenne.
Vous proposez qu'elle ait lieu en France.
On peut, en France, on a toutes les infrastructures. Je serais heureux. Oui. J'adore le foot. Oui. Donc je serais heureux qu'elle ait lieu en France. On peut faire ça dans l'Union européenne.
Cette proposition-là, vous êtes le seul à la faire ou vous êtes soutenu dans cette démarche?
Il y a une pétition sur change.org. Moi, je crois qu'on ne peut pas, si vous voulez, ça apparaît d'une certaine façon déconnecté des massacres en Syrie. Mais on doit utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour créer le rapport de force et qu'on ait donc la négociation avec Poutine. Mais pas une négociation où à chaque fois on s'indigne, il signe et la minute d'après, il envoie des bombes et il génère l'horreur.
Alors vous vous inquiétez des trois candidats à la présidentielle qui auraient une certaine indulgence avec...
Complaisance
avec Poutine. Mmh. Donc il s'agit de François Fillon, bien évidemment, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Est-ce que vous caricaturez sur, par exemple, François Fillon? Est-ce qu'on lui colle cette étiquette? Est-ce qu'il y a des preuves réellement dans le fond?
Moi, je regarde ses déclarations, y compris pendant la primaire. Ouais. Il a dit, moi, je suis du côté de Bachar el-Assad et de Vladimir Poutine.
Donc,
c'est quand même extrêmement explicite. Le Front National est sur la même position, y compris, ils sont financés par des banques russes. Et vous avez entendu, comme moi, Jean-Luc Mélenchon dire, Poutine va régler le problème en Syrie. Donc, et vous les voyez ne pas intervenir face à un massacre qu'on a sous les yeux.
Ce qu'ils distinguent au fond, c'est qu'entre Bachar el-Assad et l'État islamique, de deux mots, il vaut mieux choisir le moindre.
Est-ce que vous réalisez que quand on fait ça, on a toujours les deux? Ce sont les dictatures aussi qui génèrent ces mouvements islamistes ou ces mouvements terroristes, ou c'est l'histoire de la Syrie, le démarrage de cette histoire. Ce sont des gens qui manifestent pacifiquement parce qu'ils veulent plus de liberté. Ce que dit au fond le message
de
Vladimir Poutine.
Vous êtes sûr qu'aujourd'hui en Syrie il y a une opposition laïque et démocratique?
Mais elle est de moins en moins. On l'a laissé se faire massacrer, vous le savez. Donc le message de Vladimir Poutine au monde, c'est: vous voulez des révolutions en Ukraine, à Moscou, à Grozny, à Alep, vous aurez la guerre. Vous voulez plus de liberté? Vous aurez la mort. Est-ce que c'est ça, comme ça, qu'on va construire un monde pacifié? L'histoire, si vous rentrez dans cette truc-là, qui est de dire soit c'est Bachar el-Assad, soit c'est l'État islamique, vous aurez toujours les deux, vous n'aurez jamais la démocratie. Deux se renforcent. Ce sont des alliés objectifs.
On va parler de votre projet, mais quand même un mot sur Christine Lagarde. Donc la Cour de justice de la République a estimé que l'ancienne ministre était coupable de négligence dans l'affaire Tapis Adidas. Concept du coupable mais pas responsable. Est-ce que cette cour a lieu d'être? Et est-ce que ce résultat alambiqué dans le fond, ce n'est pas pour ces contorsions pour que, Christine Lagarde garde son poste au FMI? On ne dégage pas comme ça une directrice du Fonds monétaire international.
Eh bien, c'est un exemple. C'est la justice entre nous, la justice entre soi, la cour de justice. Et qui décide par rapport à une affaire entre soi.
Non, mais c'est un jugement inaudible. Enfin, on ne comprend rien à ce concept coupable, mais pas responsable.
Oui, ça, on ne comprend rien. Ça, incontestablement, ça ne fait que laisser dans l'opinion publique l'idée que quand on est aux responsabilités, quand on est dans le petit cercle, on a beau être coupable, on n'est pas condamné. Donc c'est ça le sujet. Mais au départ, c'est quand même un tribunal, une cour d'arbitrage, qui est un règlement politico-financier entre amis. Enfin, c'est quand même Tapie, Sarkozy, Lagarde, Borloo, ils étaient quand même copains comme cochons. C'est ça, c'est quand même ça au départ l'histoire. Donc on a choisi.
Christine Lagarde a toujours dit qu'elle n'était pas copine du tout.
Bon, elle n'est pas copine, mais en même temps, elle est condamnée pour négligence. Donc ouais. Voilà. Donc elle a quand même laissé faire.
Elle n'est pas condamnée, elle est reconnue coupable.
Oui, elle est reconnue coupable. Bon, d'accord.
C'est là que.
Non, mais je sais bien. Vous avez raison.
Ce point que le débat.
Vous avez raison. Vous avez absolument raison. Donc c'est bien un règlement entre amis. On a utilisé des cours d'arbitrage pour que, en laissant des milliards partir par l'État, et après, la Cour de justice de la République est aussi une affaire entre soi insupportable. Ouais. Ça veut dire que, finalement, ceux qui détiennent le pouvoir, ils s'arrangent entre eux. Ça donne la pire des impressions. Ça renforce la défiance des électrices et des électeurs vis-à-vis de l'ensemble des responsables politiques. On a quand même eu On a quand même des affaires incroyables sur Sarkozy. Ouais. Il a quand même été candidat à la primaire. Ça n'existe pas dans un autre pays au monde. Vous avez un candidat, François Fillon. Il a quand même touché pendant 5 ans où il était député. Il a quadruplé son salaire avec une société de conseil. Mmh. D'accord ? Deuxef Conseil. Sa société de conseil, il est tout seul.
Il est pas le seul.
Oui, mais il est candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai pas de société de conseil. Quand, société de conseil, il quadruple son salaire pendant 5 ans. Il quadruple son salaire pendant 5 ans. Ouais. Et ce monsieur qui est candidat à l'élection présidentielle.
Ça, c'est légal ou pas?
C'est légal parce qu'il a enregistré sa société de conseil 8 jours avant l'interdiction de le faire. Parce que quand vous êtes député, vous ne pouvez plus le faire. Et il est candidat à l'élection présidentielle, il touche 17 000 euros par mois de clients et il dit c'est le secret commercial, je n'ai pas donné mes clients. Vous pensez que ça construit de la confiance entre les citoyennes, les citoyens et leurs élus?
Est-ce que vous le soupçonnez d'avoir des clients peu recommandables?
Je le soupçonne pas. Je dis que son silence crée le soupçon. C'est, on a quand même, quand on va devant les électeurs pour une élection présidentielle, avec l'enjeu de notre souveraineté nationale, de notre indépendance, il est quand même normal de savoir si vous avez travaillé pour des grosses boîtes. Ça peut être totalement légitime. Ou ça peut l'être un peu moins, si vous avez travaillé pour des entreprises étrangères. C'est quand même le minimum de savoir ça. Quand vous avez un programme qui veut casser l'assurance maladie, qui casse le versement transport, qui finance 80% des transports collectifs dans les collectivités, et qu'il est complaisant et qu'il est ami avec Vladimir Poutine.
On va passer donc chez vous, chez les écologistes. Alors, il y a un an, vous plaidiez avec Daniel Cohn-Bendit, Thomas Piketty et d'autres pour une primaire à gauche. Vous avez même signé une pétition et on vous écoute. C'était il y a presque un an.
C'est pas un appel contre François Hollande, c'est pas un appel contre les partis politiques. C'est un appel pour un débat, pour que les citoyens se réemparent de l'élection présidentielle. Et c'est un appel pour qu'au fond, il y ait une dynamique à gauche qui soit l'équivalente de la dynamique à droite.
Bon, bah alors pourquoi vous avez fait bande à part?
Ah, mais je ne fais pas bande à part. Je suis parfaitement cohérent avec cette position-là.
Non, mais vous n'êtes pas allé dans la primaire à gauche.
Il y a une primaire socialiste aujourd'hui.
Bah oui.
Oui, mais c'est pas la gauche.
Oui, enfin, il y a des écologistes, pardon.
Oui, enfin, il y a un écologiste un peu perdu.
Un peu perdu.
Non, il est pas perdu pour sa circonscription.
Il y aurait deux gauches, il y aurait deux écologismes.
Hein, non, attendez, il y a un mouvement de l'écologie politique. Faut quand même, c'est pas parce que François de Rugy est parti qu'ils ont décidé de soutenir un gouvernement qui tourne le dos tous les jours à l'écologie, qui sont encore incarnant le mouvement de l'écologie.
Attendez, la COP 21, ce gouvernement.
Je réponds à la première question. Quand on a porté cette primaire de toutes les gauches et des écologistes, l'idée c'était quoi? Un grand débat citoyen. De ce grand débat citoyen naissait un socle de propositions sur lesquelles les candidats travaillaient, se distinguaient, portaient un contrat de gouvernement. Là, c'est la primaire socialiste. C'est le règlement de compte entre les anciens ministres du quinquennat Hollande. Ça n'intéresse pas l'écologie. Vous dites l'accord de Paris. J'ai dit génial la diplomatie française. Très bien. Bon, c'est quand même 195 pays qui travaillent depuis des années là-dessus. Mais la diplomatie française a fait son boulot. Le problème, que dit l'accord de Paris...
C'est quand même François Hollande qui a accueilli tout
d'accord.
ça.
D'accord. Oui, il les a accueillis. On est d'accord. Le terme est très bien choisi. C'est François Hollande qui les a accueillis. Simplement,
qu'est-ce que dit... Il a assuré l'hôtellerie,
qu'est-ce
c'est
que
ça,
dit
en fait.
L'accord de... Qu'est-ce que... J'avais dit que la diplomatie française avait très bien travaillé. Mmh. Donc je peux le répéter trois fois. Laurent Fabius et son équipe avec Laurence Tubiana.
Bon, alors donc.
Mais simplement, qu'est-ce que dit l'accord de Paris? C'est que maintenant qu'on s'est fixé un objectif ambitieux sur le climat, faut que tous les pays travaillent. Et tous les jours, qu'est-ce que fait ce gouvernement? on met l'argent à fond perdu dans le nucléaire, au lieu de, alors que le monde se tourne vers les énergies renouvelables. On soutient le diesel, alors que ça nous pollue la vie, les poumons et les artères tous les jours. On soutient Notre-Dame-des-Landes, qui est un projet totalement contradictoire avec le climat. Mmh. Quand un gouvernement, malheureusement, est tellement incohérent entre son discours et les actes, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire dans une primaire socialiste qui soutient ce gouvernement ?
Eh bien, défendre l'écologie.
Mais défendre l'écologie, mais de cette primaire socialiste, vous allez voir, l'écologie sortira aussi essorée qu'elle l'est dans le débat public.
Mais
vous en savez rien, madame. Vous n'en savez rien, madame.
Cohn-Bendit, il vous lâche en plus, il va draguer Macron.
Non, Cohn-Bendit, il dit « Je soutiens Jadot pour l'écologie et si Macron est le seul qui peut gagner, à un moment, il faut réfléchir ». Simplement, aujourd'hui, on a besoin, si on ne lutte pas contre le dérèglement climatique, si on ne lutte pas contre l'explosion des maladies chroniques liées aux pollutions, si on ne lutte pas contre la fin de l'extinction des espèces ou l'épuisement des ressources, notre avenir sera sombre pour tous. Donc, quel que soit le coin de la planète où on habite, quelle que soit sa classe sociale, cet avenir sera sombre et il sera terrible pour ceux qui sont les plus vulnérables. Et donc, il faut mettre en place des politiques pour ça. Et donc, il faut mettre en place des politiques. Quand je propose, à travers la transition écologique, de relocaliser les emplois sur le bâtiment, la rénovation des logements, c'est pour que les Françaises et les Français payent moins cher l'énergie, qu'ils aient une facture moins élevée, et ça donne du boulot à des artisans, à des ouvrières, des architectes du bâtiment. Quand je me bats pour les énergies renouvelables...
On va parler de ça, mot tout de même, sur votre candidature et sur la primaire. Vous allez essayer de faire le meilleur score, ça va sans dire. Vous préparez, vous réfléchissez à un accord quand même pour les législatives.
Mais non.
Les législatives, alors vous n'avez plus de députés.
Il y a un accord avec qui?
Justement, c'est la question que je vous pose.
Et ben voilà. Vous n'avez pas la réponse et moi non plus.
Ah non, parce que moi j'ai pas de réponse ici, j'ai des questions.
Parce qu'il n'y a pas d'espace. Alors lui, c'est la politique qui l'intéresse, moi c'est l'écologie.
Aujourd'hui, on aura des candidats de l'écologie pour les législatives. On a besoin, dans ce monde, est-ce qu'on va simplement se dire, avec des programmes politiques qui nous disent, vous savez, ça fait 30 ans qu'on propose les mêmes recettes, visiblement ça n'a pas marché, mais on va quand même proposer exactement les mêmes. Alors, à droite, on nous dit, vive les années 50, du point de vue sociétal, vive les années 80, du point de vue économique. Moi, j'ai des propositions qui nous projettent dans l'avenir.
Yannick Jadot, c'est... en 2050, donc dans 33 ans, 100% d'énergie renouvelable en France.
Oui.
Une société nouvelle qui change le rapport de la France au monde, dites-vous.
Absolument.
Ça, effectivement, ça s'entend. Mais est-ce que ça n'est pas totalement illusoire
de... Mais non.
Cette transition,
comment
on est à 15%
retard,
aujourd'hui, passer à 100% en 33 ans.
Mais c'est non, mais pas à la fois. Il y a un scénario de l'ADEME, qui est quand même une agence publique française, qui a fait un scénario 100% renouvelable. Il y a des scénarios européens, il y a des scénarios montés par les experts.
Ça coûte combien
Ça coûte beaucoup moins cher que de rester dans le statu quo et de poursuivre avec le nucléaire. Aujourd'hui, les énergies photovoltaïques et éoliennes sont autour de 40 à 50% moins chères que le nucléaire. Mmh. 40 à 50% moins cher que le nucléaire. Au niveau mondial, aujourd'hui, le monde investit à plus de 60% dans les énergies renouvelables. Est-ce que la France, on va rester en dehors du monde ou est-ce qu'on va se dire, c'est génial parce qu'en plus, ça crée des emplois, en plus, ça relocalise l'économie, en plus, ça fait de la réappropriation citoyenne d'un sujet essentiel qui est notre énergie, et en plus, ça nous rendra plus indépendants de la Russie, des pétromonarchies du Golfe ou de l'uranium nigérien. C'est quand même... C'est un nouveau modèle de société, vous avez raison. Au sens où on se réapproprie les sujets essentiels. C'est pas EDF qui décide dans son coin avec l'État dans totale opacité. C'est pas ExxonMobil ou Total qui nous fait du pétrole, qui finance les dictatures en Afrique et ailleurs et qui a financé la campagne de Trump et son climato-scepticisme. C'est les citoyens qui se réapproprient l'énergie et qui créent des emplois locaux, des entreprises, des emplois locaux, de l'innovation. Il y a plein de boîtes françaises qui ne trouvent pas de débouchés aujourd'hui alors qu'elles sont potentiellement les meilleures du monde sur les énergies renouvelables.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean Tirole, donc le prix Nobel d'économie, qui veut faire payer aux États le droit d'émettre du carbone? Est-ce que c'est une bonne solution?
Écoutez, il y a un enjeu essentiel aujourd'hui lié à la lutte contre le dérèglement climatique, c'est donner un prix élevé au carbone. C'est ouais. ça, le dérèglement climatique, c'est le carbone. Ouais. Donc tant que...
Il y a tous les États, donc du coup...
Bien sûr. Oui. Après, c'est chacun selon sa responsabilité, selon ses moyens. Un Burkinabé, aujourd'hui, il émet 0,3 tonnes de carbone par an. C'est pas lui qu'il faut taxer.
Non.
Lui, il faut lui permettre à la fois de s'adapter au dérèglement climatique et d'avoir un développement plus propre. Mais c'est en plus ce qu'ils sont en train de faire. Les énergies renouvelables, c'est la première source d'installation électrique en Afrique aujourd'hui, dans les pays du Sud. C'est pas un truc de riche. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est le truc décentralisé. C'est...
Oui, mais comment on rattrape ce retard qui est... Mais... C'est 15% aujourd'hui.
Mais parce qu'on peut aller très très vite. On peut, si on décide de sortir du nucléaire en 20 ans, pas demain, en 20 ans.
Vous avez vu, les Allemands, ils ont fait du charbon.
Non, 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 les Allemands, ils font du charbon. Vous avez raison, mais ouais. vous allez voir qu'Angela Merkel, après avoir confirmé la sortie du nucléaire, va sortir du charbon, parce que le prix du charbon, à un moment, s'est tellement effondré sur les marchés mondiaux que les centrales charbon remplaçaient les centrales gaz en Allemagne. Mais évidemment, c'est un problème, le charbon. Mais en même temps, l'Allemagne a créé 400 000 emplois sur les énergies renouvelables. Toutes les villes s'en emparent. Les coopératives s'en emparent. Ils ont des industries qui innovent et qui embauchent. Est-ce qu'on a envie d'embaucher? Est-ce qu'on a envie d'innover? Est-ce qu'on a envie que les citoyens soient acteurs de leur destin? C'est ou on a envie d'être sous la coupe d'ExxonMobil, de l'Arabie Saoudite et de Vladimir Poutine?
Merci Yannick Jadot. C'est la fin de cette émission et merci à Pauline Hellman, Audrey Yatoni qui nous ont aidé à la préparer.
Bon, j'espère que je vous ai convaincu parce que vous êtes...